CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Madame, monsieur, bonjour, c'est jeudi, c'est politique avec Kader Youb dans nos studios. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Ton invité aujourd'hui c'est François-Xavier Pestel, directeur académique de l'éducation nationale du Tarn-et-Garonne.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur Pestel.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur CFM Radio. Journée de grève aujourd'hui. La réforme du collège, bien sûr, on va essayer avec vous de savoir ce qui est vrai du faux. Adopté par le Conseil supérieur de l'éducation le 10 avril 2015, la réforme du collège portée par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, doit être mise en œuvre pour la rentrée scolaire 2016. Le texte a soulevé de nombreuses critiques, autant du côté des enseignants, des syndicats que des politiques, et tout le monde s'y est mis. Des critiques qui ont parfois dépassé cette seule réforme, on va voir avec vous, pour viser plus généralement la méthode d'enseignement et les nouveaux programmes. Or, il ne s'agit pas de la même chose, les enseignements sont régulièrement aménagés par le Conseil national des programmes, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et une instance qui agit sans rapport direct avec la réforme. On va en parler donc. La réforme du collège, tout de suite, la première question, quelle est-elle? Qu'elle recouvre exactement?
Bien, alors, une question un peu vaste. Juste redire deux, trois choses de contexte. D'abord, rappeler qu'il y a un diagnostic partagé par tout le monde qui est le fait que le collège, grosso modo en France, est un point de difficulté du système éducatif. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense qu'en ce moment, on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc s'il y a une réforme, c'est pas parce que tout va bien, c'est parce qu'il y a un point de difficulté. Deuxième point... j'arrive à votre question. Hein. Deuxième point, rappelez juste trois grandes étapes très macro de l'évolution du système éducatif. On a eu en gros l'école obligatoire, hein, je vais très vite, fin 19e. La massification de l'école dans les années 60-70 avec un collège par jour. Aujourd'hui, on est dans une étape où on doit aller vers ce qu'on appelle la personnalisation des parcours. C'est-à-dire qu'il faut, en gros, tous les élèves de France, tous les enfants de France sont au collège. Donc il faut qu'on arrive à adapter notre enseignement à chaque individualité. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, etc. Bien entendu, il y a un cadre qui est national et qui est très important. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. La réforme, vous avez dit les programmes, c'est pas lié à la réforme, etc. À la fois, c'est vrai. À la fois, il y a quand même une logique et une cohérence d'ensemble. Hein, aujourd'hui, ce qui est proposé avec cette réforme, c'est d'actionner plusieurs leviers en même temps et qui sont en cohérence. Alors, d'abord, je vais très vite, hein, mais la refonte du socle commun de connaissances, compétences, culture. Donc ça, à la suite de la loi de refondation, bien entendu. Donc la réforme du socle commun, la réforme des programmes, on y reviendra éventuellement, la formation des nouveaux cycles, donc cycle 3, donc avec un cycle en particulier CM1, CM2, 6e, je reviendrai dans les détails si vous voulez.
On y reviendra dans une seconde partie, voilà, justement, sur ces nouveaux cycles.
Et puis, alors, probablement, c'est pas encore, mais il y a une réflexion qui a été amorcée sur la question de l'évaluation. Là aussi, je rentre pas en détail. Et enfin, une réforme sur, je dirais, l'organisation des enseignements, le structurel. Et c'est, ce dernier point, la réforme du collège. Mais elle s'inscrit dans ce tout. Bien. Alors, pour répondre maintenant vraiment à votre question, la réforme du collège, je dirais il y a quatre points centraux dans cette réforme du collège, qui sont, certaines sont des vraies nouveautés et d'autres le sont moins. Premier point, l'accompagnement personnalisé, qui est généralisé. Donc c'est quelque chose qui avait été amorcé déjà à la fois sur le lycée en seconde et à la fois en sixième depuis quelques années, qui est généralisé à tous les niveaux. Donc, des possibilités de travail en petits groupes pour aider l'élève. Alors, aider l'élève en difficulté, stimuler l'élève qui est plus en avance, plus à l'aise. Accompagnement personnalisé. Deuxième point très important, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les EPI, hein, les enseignements pratiques interdisciplinaires.
Voilà, est-ce qu'on peut s'y arrêter justement sur ces EPI qui font...
Oui, je voudrais juste terminer les deux autres points et puis je reviens sur les EPI, hein, tout à fait. Donc, je reviens, c'est effectivement un point central. Troisième point, la question des langues vivantes, avec la généralisation de la langue vivante en cinquième. Et enfin, quatrième point, qui est des marges d'autonomie, hein, de moyens, si vous voulez, donnés par division pour pouvoir donner du mou à la pédagogie. Alors, si on fait un petit focus sur les EPI, ce qui est important, à mon avis...
Enseignement pratique interdisciplinaire.
Voilà, hein, enseignement pratique interdisciplinaire. À mon avis, ce qui est important à entendre, Donc l'idée générale, hein, c'est, enfin le nom l'indique, c'est d'avoir des enseignants de plusieurs disciplines qui vont travailler ensemble sur une réalisation, hein, donc produire un dossier, je sais rien, une expo, bon, quelque chose qui est une réalisation. Mais ces EPI, et ça c'est une grosse différence avec ce qui a pu exister dans le passé, je ne vais pas vous abreuver de sigles, mais ce qu'on a pu voir dans le passé, ces EPI, ils s'inscrivent dans les programmes. Donc c'est pas je fais n'importe quoi, je fais ce que j'ai envie le matin en me levant. C'est il y a des programmes et pour mettre en œuvre ces programmes, ce que souhaite faire et le cœur de cette réforme, c'est diversifier les modalités d'enseignement. Donc le gros des enseignements, la masse des enseignements, ça va être du cours un prof, une classe, etc. Ça reste la voie la plus courante, mais sur une partie non négligeable de l'ordre de 20% des enseignements. On puisse varier les modalités. Ça veut dire de la co-intervention. Deux profs dans une même classe, deux profs de disciplines différentes. Moi, à titre d'exemple, moi, j'avais déjà, il y a 15 ans, travaillé, fait des maths en anglais avec une collègue d'anglais. J'étais prof de maths. Bon, voilà. Là, ça l'institue un petit peu et ça permet d'aborder des notions du programme, j'y insiste, mais de manière un peu différente.
Alors, beaucoup des opposants à la réforme disent finalement que ces projets interdisciplinaires finalement vont enlever de l'horaire du travail sur du socle commun, des matières classiques. On va enlever de ces horaires-là pour dispenser des cours qui n'auront que très peu d'intérêt pour l'élève.
Oui, mais ça je crois que ça... Bon, je l'entends dire comme vous, hein, mais encore une fois, je réinsiste sur ce que je viens de dire, à savoir que les EPI... Alors, les gens que vous citez souvent font référence aux IDD, aux itinéraires de découverte qui ont lieu il y a une dizaine d'années maintenant, où en gros les enseignants choisissaient une thématique qui s'appropriait. Là, la grosse différence, j'y insiste, c'est que c'est dans les horaires des disciplines et c'est dans les programmes. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire que si j'aborde telle notion en mathématiques ou telle notion en SVT, en sciences et vie de la Terre, pardon. Je peux le traiter soit dans un cours, je dirais, classique, un prof, une classe, soit en interdisciplinarité, dans le cadre des EPI.
Alors ça, ce sera le choix du principal, du proviseur du collège, ou ce sera des directives nationales?
Alors, ni l'un ni l'autre, et ça je vous remercie de cette question, elle est très importante. L'autonomie, donc vous l'avez compris, hein, un des axes de cette réforme, c'est de donner de l'autonomie aux établissements. C'est pas de l'autonomie au chef d'établissement, c'est de l'autonomie à l'établissement. Donc en même temps que il y a le panel de leviers que j'ai cité tout à l'heure, les programmes, etc., il y a aussi un levier que j'ai pas cité, qui est la réactivation des instances de concertation au sein de l'établissement. Donc, c'est redonner du poids au conseil pédagogique, hein, qui est un lieu qui existe maintenant depuis là également une dizaine d'années, où ce sont les équipes qui vont s'emparer de ces questions-là. Et ça va être décidé de manière collégiale. De toute façon, si c'était décidé soit par le principal, soit par l'inspecteur d'académie, soit par la ministre, enfin, ça ne prendrait pas. On sait bien que il faut que les gens s'en emparent. Donc c'est tout à fait central, hein, votre question est très importante. Qui va décider? C'est les équipes qui vont s'en emparer. Et s'en emparer collectivement. Hein, voilà. Avec tout un tas de garde-fous aussi pour qu'il n'y ait pas, l'élève dans la classe A, il fait ci, l'élève dans la classe B, etc. C'est-à-dire qu'il y a un cadrage. Pas forcément rentrer dans tous les détails, mais avec un nombre de pays minimum par an, avec un nombre de pays minimum sur l'ensemble du cycle. Alors là, on parle du cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, bon, etc.
Ouais, alors, l'idée sur ces cycles, ce n'est plus de segmenter, finalement, d'avoir une logique annuelle de programme, mais sur un cycle de 3 ans, hein, c'est-à-dire que le CM2 sera sur un cycle, c'est ça, arrêtez-moi si je me trompe, 6e, 5e, non, CM2, 6e, 5e, c'est ça?
Non, alors, le cycle 3, CM1, CM2, 6e. Donc, c'est un cycle qui est à cheval école-collège, je vais y revenir. Et le cycle 4, c'est ce dont on parle en ce moment, hein, 5e, 4e, 3e. Avant, il y a le cycle 1 à la maternelle, et cycle 2, CP, CE1, CE2. Bien, alors, sur les cycles. Les cycles, ça existe depuis, je sais plus précisément là tout de suite, mais c'est une vingtaine d'années, hein. C'est pas une nouveauté de cette réforme-là, hein, les cycles. La logique du cycle, c'est quoi? C'est de dire que les enfants Et je pense que tout le monde en conviendra, l'apprentissage, l'éducation, c'est pas une science exacte, c'est pas tout le monde progresse à la même vitesse, et bon, à 8 ans, tout le monde sait la même chose, à 9 ans, tout le monde sait telle chose, etc. C'est de dire que l'apprentissage, l'éducation, la croissance, la maturité, c'est des phénomènes dynamiques. Et donc, on dit que le cycle va dire, sur 3 ans, en gros, il faudrait arriver à maîtriser tel savoir, telle compétence, etc. Mais il y a une fluidité au sein de ces cycles. Et donc, la logique aussi, c'est on va pas faire redoubler au sein de ce cycle. Parce que si au début de cycle, en CM1, j'ai pas acquis telle notion en mathématiques, ça sert à rien de redoubler, je passe en CM2, mais au sein du CM2, ça va être pris. Puisqu'on est dans le même ensemble, dans la même logique pédagogique.
Si est-ce que vous sous-entendez que le redoublement n'existe plus, n'existera plus?
Alors non.
Sauf cas extrême, marginal. Ben,
la logique du cycle, c'est qu'en tout cas, il n'y ait plus de redoublement au sein d'un cycle. Au sein d'un cycle. Après ça...
On pourra redoubler sa sixième. On ne pourra pas redoubler son CM2. C'est ça?
Voilà, la logique, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on pourra redoubler à partir du moment où on basculera vers un autre cycle.
La logique du cycle, c'est ça. Alors, ça, c'est la logique du cycle. Après ça, si vous voulez qu'on parle de redoublement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un tas d'études qui montrent que le redoublement n'est pas opérationnel. Donc, au-delà du fait que ça coûte cher, et c'est vraiment pas ça la porte d'entrée, c'est que ce n'est pas efficace pour les élèves. Voilà, donc
on écoute un petit peu de pub sur CFM et on revient dans un instant dans le rendez-vous politique avec Kader Youb en conversation avec François-Xavier Pestel, directeur académique de l'éducation nationale du Tarn-et-Garonne.
CFM à Moissac, 90.7.
Musique, danse, spectacle, enfants, pendant tout le mois de juillet et pour la première fois, le festival Montauban en Seine ouvre ses portes dans le cœur de ville montalbanais. Du 16 au 30 juillet, place au festival In. Véronique Sanson, Michel Leb, Danny Briand ou Ursula and Fire Experience featuring Al McKay, venez applaudir vos artistes préférés.
Réservez vos places sur les réseaux Ticketmaster ou France Billets ou dans l'un de nos points de vente montalbanais, Théâtre Olympe de Gouges et Office de Tourisme. Info www.montaubanenseine.fr et la page Facebook du festival.
Dimanche 14 juin, au Parc de l'Allaire à Monteils, de 10h à 17h, participez au premier salon du jeu, organisé par la communauté de communes du Quercy-Caussadet. Toute la journée, des ateliers créatifs, des spectacles, des jeux gonflables, un grand espace jeu pour petits et grands. Venez partager un moment de jeu en famille, dimanche 14 juin, au Parc de l'Allaire de Monteils, de 10h à 17h. Participez au premier salon du jeu, organisé par la communauté de communes du Quercy-Caussadet. Entrée gratuite, restauration possible sur place.
Événement portes ouvertes chez les maîtres du feu du 18 au 20 juin. Poêle à bûche et granulé Max Blanc, une garantie 10 ans, une qualité irréprochable, un style design rustique, épuré ou tout simplement le style qui vous plaît. Bûche ou granulé, le poêle Max Blanc, mixte sans électricité, vous apporte la chaleur dont vous avez besoin. Alors venez saisir les opportunités qui vous seront offertes pendant les portes ouvertes chez les maîtres du feu. Alba Sud Montauban du 18 au 20 juin avec nocturne jusqu'à 22h le vendredi. Les maîtres du feu, offrez-vous l'excellence.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
À la suite du rendez-vous politique avec Kader Youb, l'invité aujourd'hui c'est François-Xavier Pestel, directeur académique de l'éducation nationale. Pour le Tarn-et-Garonne. Je fais une petite parenthèse avant de te rendre la parole, Kader. Monsieur Pestel, sur CFM, on a des émissions en langue occitane animées par notamment Manu Isopé, qui est un professeur d'occitan. Qu'en est-il des langues régionales dans cette nouvelle réforme des collèges?
Je me doutais que vous me parleriez un petit peu de l'occitan, c'est... un sujet important dans cette région.
Et comme je sais que vous êtes parisien, qui voilà. Peut être loin de vos préoccupations.
Donc,
peut-être.
Occitaniste courant. Je crois que la ministre l'a rappelé, les langues, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ne sont pas impactées par la réforme en tant que telle. Il y a des marges d'autonomie qui sont données aux établissements, et donc il y aura des choix d'établissements. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des choix d'établissement, il y a des choix de la Camille, il n'y a pas d'Occitan à Paris. Il y a des choix qui ressortissent de la des choix locaux, qu'ils soient académiques, départementaux, d'établissements, etc., qui permettent que, en Bretagne, il y a des choix sur le breton, en Midi-Pyrénées, etc.
Il n'y a pas de danger de voir disparaître Moi, au début, quand j'ai vu marqué plus de langues, plus de cours bilingues ou de classes bilingues, j'ai cru qu'on parlait de ça, mais en fait, non, c'est pas du tout ça.
Non, c'est pas du tout ça. C'est plus. On peut en parler si vous voulez, mais ça, c'est des classes bilingues, c'est deux langues vivantes étrangères, pas régionales. Enseignés en sixième.
Ouais, qui seront donc supprimés au profit, c'est selon de quel côté on se place, au profit d'une seconde langue à partir de la cinquième. Est-ce que c'est ça ?
Alors, pas tout à fait. Non. Alors, d'abord, rappelez que les classes bilingues, au moment où on se parle, elles n'ont aucune existence légale. C'est-à-dire que les classes bilingues, il n'y a aucun texte qui régit en France les classes bilingues, c'est une initiative du terrain, et donc à ce titre-là qui est tout à fait intéressante. Hein.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça a été finalement pour avoir des classes plus avec un niveau plus élevé que d'autres?
Je crois que ce qui est... La difficulté dans le débat sur la réforme du collège, c'est qu'il faut qu'on essaie de sortir des caricatures et des idées toutes faites. Donc je vais pas me prononcer comme ça, juste pour aller au bout. Les classes bilingues, c'est né d'initiatives de terrain. Et dans la réforme actuelle, celle dont on parle, qui est prévue, elles vont avoir une existence légale, donc elles vont être pérennisées dans le cadre de continuité linguistique. Donc si vous avez commencé une langue dans le premier degré, il pourra y avoir une continuité linguistique avec des classes bilingues. Hein, concrètement, j'ai fait de l'allemand dans le premier degré. Le collège jusqu'à maintenant je fais de l'espagnol en premier degré. Le collège dans lequel j'arrivais faisait allemand en première langue. Par le passé, dans certains endroits, j'étais obligé d'arrêter l'espagnol. Bon, ben là, il y aura possibilité, il y aura une existence légale pour la création de classes bilingues. Et on dit bilingue, c'est-à-dire de langue par opposition à bilingue, où on enseigne 10 disciplines en langue. Ah, voilà. Donc après ça, les classes bilingues, je crois qu'il y a eu dans certains endroits ce que vous décrivez, à savoir en gros des classes de niveau, des classes comme on voudra. Je crois qu'il y a eu vraiment un pilotage important des différents échelons du système éducatif pour les orienter vers non plus des classes, mais des sections bilingues, hein, où les élèves étaient répartis dans différentes classes pour justement créer de l'hétérogénéité et qu'on n'ait pas tous les bons élèves au même endroit et tous les élèves en difficulté.
L'objectif de la réforme étant celle-ci. Hein.
Oui, tout à fait. Bon. Et donc là, quand même redire aussi que les classes bilingues, c'était pas pour tous les élèves, que la LV2, donc la langue vivante 2 en 5e, c'est pour tous les élèves.
C'est pour tous.
Et rappeler également qu'en Midi-Pyrénées, pour le coup, la rectrice avait pris la décision dès l'année dernière d'expérimenter ça. Hein, donc on a une année d'avance d'une certaine façon sur cette réforme. Et au moment où je vous parle, il y a des évaluations d'un bilan d'étape, si vous voulez, sur la mise en place de la LV2 en 5e en Midi-Pyrénées, qui est en train d'être menée par les inspecteurs des disciplines.
Monsieur Pestel, avant de faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé en année scolaire 2014-2015 ici, dans Tarn-et-Garonne, je voudrais, de façon plus philosophique, avoir recueillir votre avis sur l'état de l'école. Régulièrement, des rapports, des études font état du niveau de compétences des petit français, un des plus faibles des pays développés. Hein. On peut citer les rapports de l'OCDE, du FISA régulièrement, qui pointent un certain décrochage, en tout cas, sur les résultats. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vraiment l'école française est en décrochage par rapport à ses voisins européens ?
Alors, là-dessus, là aussi, la difficulté, il faut essayer d'être nuancé. L'école française avait l'habitude d'être la meilleure, on va dire, il y a un certain nombre d'années. Et ce que montrent les études internationales, c'est que, en gros, l'école française est en train de revenir, est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Elle n'est pas dans les mauvais, elle est dans la moyenne. Premier point. Deuxième point, qu'elle est plutôt légèrement en baisse. Ça, sur certains, bon, faudrait rentrer dans la technique, mais je développe pas. Bon, ça, c'est des réalités. Parmi les indicateurs qui sont particulièrement préoccupants, il y a ce chiffre de décrocheurs dont on parle régulièrement. Alors, peu importe, autour de 150 000, 120 000 élèves qui sortent du système éducatif sans qualification. Ça, on ne peut pas, en tant que responsable éducatif, mais citoyen, parent d'élèves, etc., se dire c'est pas un sujet. C'est un sujet préoccupant pour notre école et pour notre société. Voilà, donc voilà. Donc c'est ce qui fait que je crois que l'école a besoin de se réformer. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut sortir des caricatures qui disent que l'école ne bouge jamais, etc. Il y a eu un nombre très important de réformes les dernières années.
Peut-être trop, Monsieur Pestel. Alors,
c'est vrai que si on regarde sur le temps court, on a l'impression que les réformes les réformes se succèdent et ils n'ont pas le temps d'arriver au bout. Si on regarde sur le temps long, c'est beaucoup moins vrai. Si on regarde sur le temps long, on va quand même, et quelles que soient les alternances politiques, là pour le coup, sur la montée en qualification des élèves, globalement, et de manière très, très importante. Je rappelle que il y a eu un dernier cap franchi avec la création du bac pro 3 ans, il y a quelques années, montée en qualification, et on va globalement, parce que je vous disais tout à l'heure, sur une autonomie des établissements locaux, hein, une autonomie, encore une fois, j'y insiste, dans les mises en œuvre de la pédagogie, pas dans les programmes. C'est très important de différencier les deux choses. Et je dirais, troisième point très important, on va de plus en plus, sur le temps long, vers la personnalisation des parcours. Hein. Et voilà, donc ça c'est des choses qui sont sur le temps long très très.
Mais quand on dit année après année que en sixième de plus en plus de jeunes arrivent en étant illettrés, sans savoir lire ni écrire correctement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est encore une fois des effets de manche
Alors. Un, on dit pas qu'ils sont illettrés. On dit qu'il y a des élèves en difficulté de lecture, et ça c'est vrai, hein, faut pas. Mais les mots sont importants quand même, hein. Voilà. Bon, donc c'est vrai qu'il y a des élèves qui arrivent à l'entrée en sixième en difficulté de lecture. Très objectivement, une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus d'éléments de mesure précis internes au système éducatif au niveau local, hein, puisqu'on a plus d'évaluation faite dans les écoles. Par contre, il y a des enquêtes au niveau national. Hein, qui permettent de donner des éléments et qui nuancent ces propos-là, hein, et qui nuancent en particulier sur des progrès sur l'entrée en CP en particulier. Voilà, donc il y a des difficultés, je vais pas vous dire qu'il y en a pas, ce serait se voiler la face, mais là aussi il faut pas tomber dans la caricature.
Le numérique, monsieur Pestel, le numérique qui va rentrer en force, en tout cas dans les programmes, est-ce que pour vous c'est une solution, est-ce que c'est accompagné, parce que les jeunes finalement ils ont pas besoin de l'école pour apprendre à manier l'objet, l'ordinateur ou la tablette.
Alors là, je m'inscris vraiment en faux là-dessus. Vous avez tous les jours, il y en a eu un tragique dans le département récemment, sur l'utilisation du numérique. C'est pas parce qu'on a l'outil qu'on sait l'utiliser. Et quand je dis savoir l'utiliser, c'est pas sur le plan technique. C'est sur le plan éthique, de comment je trie les informations, comment je me protège, comment, etc. Vous voyez ? Et donc ça, il y a un vrai besoin. Donc pour répondre à votre question, le numérique, je crois que c'est un outil, enfin, je crois que c'est un enjeu fort pour le système éducatif. Mais c'est pas une fin en soi. Le numérique, c'est un enjeu fort parce que ça permet des choses extrêmement puissantes sur la communication entre les différents acteurs, sur l'attractivité des cours, parce que les jeunes pratiquent ça tous les jours. Donc c'est vrai que il y a un petit côté plus attractif et plus pour les élèves, mais aussi et surtout parce que ça permet des éléments de différenciation pédagogique, c'est-à-dire de pouvoir respecter le rythme des élèves pour l'apprentissage de telle ou telle notion, hein, pour le dire de manière un peu simple. Voilà. Ouais. Donc c'est un enjeu en termes de ce que ça permet, pas en termes de c'est génial pour ce que c'est.
Alors, parlant des élèves, en France, Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, a mis en place une réforme des rythmes scolaires qui était quelque part l'amorce de cette réforme qui arrive là, la réforme des programmes, la réforme des collèges. C'était un bloc de la refondation, pour reprendre les termes de la loi. Est-ce que c'était une bonne solution que de réaménager ces horaires, monsieur Pestel?
Alors, donc je vous rappelle que moi je suis fonctionnaire de l'État, hein, et que donc je me place pas du tout sur un terrain politique, ça va de soi. Mais pour répondre à votre question, là aussi, ça fait des années et des années qu'on dit que les rythmes de l'enfant en France, et qu'il y a trop de vacances en été, que bon, etc., que les semaines sont plus chargées qu'ailleurs, donc qu'il y a une réflexion sur les rythmes scolaires et qui n'a jamais abouti sur une réforme. Donc c'est la première fois qu'il y a une réforme d'ampleur qui est menée là-dessus. Donc je crois que oui, c'est important de prendre en rythme, de prendre en compte le rythme de l'enfant, de prendre en compte le rythme d'apprentissage de l'enfant et de prendre en compte les résultats de la recherche, est-ce que les enfants sont plus disponibles plutôt le matin ou pas juste après avoir mangé, bon, etc. Des choses qui sont relativement simples à comprendre, mais qui sont pas prises en compte dans la façon dont on enseigne. Donc, enfin, on a tous vécu des réunions juste après manger où on s'endort.
Hein, voilà. Dans le cadre de cette réforme des rythmes scolaires, il y avait donc ce volet des PEDT, des projets éducatifs de territoire, qui devait être mis en place par les communes. Le PEDT, c'est donc des activités périscolaires, hein, en complément de l'activité scolaire. Alors, le Tarn-et-Garonne fait figure de parents pauvres, de mauvais élèves, hein, pour reprendre la terminologie de
Je voulais vous taquiner, je dirais qu'il n'y a pas de mauvais élèves, mais bon, allez-y, je vous laisse.
En tout cas, sur la région des Pyrénées, le Tarn-et-Garonne fait pas le figure, avec seulement, je crois, vous allez nous le dire, des chiffres exacts, très très peu, finalement, 2 ou 3 PEDT signés à aujourd'hui, alors qu'ils doivent être signés au 1er septembre pour les communes. Pour pouvoir continuer à percevoir le fonds d'amorçage. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les communes du Tarn-et-Garonne ont pris le pas et se sont mis en marche?
Alors, sur ce point-là, là aussi, je vais, pour apporter un tout petit peu de précision, d'abord, PEDT, c'est pas uniquement le périscolaire, c'est la cohérence entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Hein, donc, c'est important. Deuxièmement, le Tarn-et-Garonne est passé massivement à la réforme des rythmes scolaires dès l'année 2013 sur les nouveaux horaires, dès la rentrée 2013. Et c'est vrai que ça a été fait la plupart du temps sans PEDT, sans projets éducatifs territoriaux. Voilà. Et donc, l'année d'après, donc 90% des communes y sont passées, hein, dont les communes les plus importantes du département, ou la plupart d'entre elles. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on accuse un retard. Hein. Au moment où on se parle, on a 3 PEDT signés en bonne et due forme depuis l'année dernière. Et il y avait, moi, dernier pointage, une quarantaine de communes qui étaient en ordre de marche pour s'orienter vers la signature d'un PEDT.
Et Montauban ?
Alors, dont Montauban. Donc, vous voyez que Montauban, qui pèse un tiers du territoire, voilà.
Il reste une minute, Kader Yob. Ouais,
alors, Montauban, très très rapidement, Montauban qui a communiqué sur le retrait, ce sont les termes du communiqué de la ville de Montauban, le retrait de l'éducation, l'inspection académique des activités, c'est-à-dire qu'on demandait finalement aux professeurs d'école de revenir sur leurs fondamentaux et de plus s'occuper de la musique, de l'art, etc. Est-ce que c'est...
Non, là-dessus, juste redire sur ce communiqué de presse très rapidement, que c'est un communiqué de presse donc de la ville de Montauban. Moi, ce que je souhaite redire, pas du tout polémiquer sur ce sujet, dire un qu'on travaille très bien avec la ville de Montauban et qu'on est Madame Doutrelot, l'inspectrice de la circonscription, on travaille très étroit avec les services de la ville pour essayer d'aller vers plus de qualitatif. Sur le temps périscolaire, et donc voilà, donc ça moi je m'en félicite, et là-dessus il n'y a pas de décision unilatérale, il n'y a que des décisions qui sont partenariales, et donc voilà, c'est un travail qu'on mène de concert avec la ville.
Merci François-Xavier Pestel, notre invité.
Merci à vous.
C'était le rendez-vous politique avec Kader Youb. La semaine prochaine, Kader.
Il y a personne, on se retrouve le 25 avec Jean-Philippe Béziers, le maire de Castelsarrasin, vice-président du conseil départemental.
Très bien, merci d'être venu ici au micro de CFM, François-Xavier Pestel.
Merci à vous.
Au revoir.
J'ai pas pu dire tous les aspects positifs du système éducatif de Tarn-et-Garonne.
Vous reviendrez.
Ça sera pour une prochaine fois.
CFM, il est 17h30.
CFM. CFM.